le journal d'Alexandre Rosset.
Bonjour, les Suisses ne veulent pas de taxes pour le climat. Y a-t-il donc d'autres solutions pour réduire notre empreinte carbone? La Confédération doit désormais remettre l'ouvrage sur le métier. Quelques pistes commencent à émerger. C'est une personne qui sera chargée d'encadrer le transfert de moutiers dans le Jura. Les autorités prévotoises ont récemment mis au concours un poste de chef de projet. Le travail sera différent de ce qui se fait dans chaque canton. L'Aurora a fait aujourd'hui ses débuts à l'Euro. L'Espagne affronte la Suède à 21h. La préparation des deux équipes a notamment été perturbée par le Covid. L'été est bel et bien là. Soleil et chaleur seront encore au rendez-vous aujourd'hui. Il fera jusqu'à 28 degrés. Des conditions qui se poursuivront ces prochains jours, même si le temps deviendra un peu plus instable. La loi sur le CO2 et ses taxes incitatives ont donc été enterrées hier par les Suisses. Se pose désormais la question des solutions qui restent désormais à disposition de la Confédération pour ne pas rester les bras croisés face au réchauffement climatique et respecter les accords de Paris sur le climat. Notre pays s'est en effet engagé à diviser par deux les émissions de CO2 d'ici 2030. Peut-on s'en remettre à la responsabilité et au bon sens individuel? La climatologue du GIEC et de l'EPFZ, Sonia Seneviratne, regrette en tout cas une forme d'égoïsme de la part des Helvètes.
La Suisse ne fait pas la contribution qu'on pourrait attendre d'elle en tant que pays développé, en tant que pays riche. Je pense que c'est surtout décevant pour la Suisse. Ce sera peut-être plutôt une catastrophe pour la Suisse, dans le sens où ce sera très mauvais pour sa réputation. Il est absolument essentiel d'agir immédiatement. Je veux dire, nous sommes dans une crise climatique et, disons, le vote n'y change rien. Et la Suisse a des responsabilités, comme tous les autres pays, de diminuer ses émissions de CO2. La plupart des pays qui nous environnent ont une législation maintenant en place qui semble beaucoup plus ambitieuse que ce que nous avons en ce moment en Suisse. Si on compte sur les autres pour faire les efforts qu'on n'est pas d'accord de faire nous-mêmes, ça semble une politique très égoïste. Je ne pense pas que ça profitera à l'image de la Suisse et c'est dommage.
Au Parlement fédéral, nombreux sont ceux qui ne veulent pas baisser les bras et chercher une voie sans taxes incitatives. Le socialiste vaudois Roger Nordmann, qui avait beaucoup travaillé au compromis de la loi sur le CO2, prône désormais une stratégie secteur par secteur.
Pour la suite, il faudra plutôt fonctionner avec, d'une part, des programmes publics d'incitation qui proposent aux acteurs économiques des soutiens. Et le deuxième aspect, c'est évidemment les normes techniques. Par exemple, pour les normes de pollution des voitures, ça c'était peu contesté dans la loi. Ça c'est quelque chose qu'on peut reprendre. Et puis l'autre chose, on avait essayé de faire un projet cohérent global, mais je crois que maintenant il va falloir y aller par tranche pour que les gens puissent dire précisément « oui, je suis d'accord avec cet aspect, non, je ne suis pas d'accord avec cet aspect ». Genre une tranche bâtiment, une tranche mobilité routière, une tranche aviation par exemple. C'est difficile à dire quelle part des gens qui ont voté non veulent quand même agir pour le climat. Il y en a sûrement. Est-ce que c'est 3%, 10% ou est-ce que c'est 50% de ceux qui ont voté non? Tendanciellement, ça montre aussi qu'il faut plutôt aller avec des aides à l'investissement plutôt qu'aller avec des taxes d'incitation qui sont mal comprises.
Un dossier réalisé par notre correspondant à Berne, Serge Hubin. Et dans la région, la réflexion est également lancée. Plusieurs partis estiment qu'il est urgent d'agir. Pour Céline Robert-Charulinder, la coprésidente des Verts jurassiens, il faut mettre d'autres solutions sur la table.
On voit que les approches libérales et incitatives, redistributives ne fonctionnent pas. Donc peut-être qu'il y a d'autres solutions. Il faudra peut-être revenir sur des prescriptions plus sévères, peut-être en matière de politique alimentaire, en faveur du climat, en faveur de politiques énergétiques accélérées, peut-être aussi en faveur de mobilité. On voit que dans d'autres pays, ils ont par exemple déjà introduit l'interdiction de nouveaux véhicules émetteurs de CO2 à partir d'une date donnée, comme ça a été le cas pour l'énergie nucléaire. Donc je pense que c'est aussi des points que nous devrons aborder assez rapidement.
La grève du climat Jura a aussi réagi ce matin à ce refus des Suisses concernant la loi sur le CO2. Selon le mouvement, la population veut une politique climatique cohérente. Les militants estiment que ce texte ne constituait pas une réponse adaptée aux enjeux climatiques. Il faut, selon eux, faire passer à la caisse les véritables responsables de la crise climatique, à savoir la place financière et les grandes entreprises. Les femmes se mobilisent à nouveau ce soir dans le Jura et dans toute la Suisse, 2 ans après la vague violette du 14 juin 2019. L'égalité salariale, la retraite à 65 ans, mais aussi les violences faites aux femmes restent au cœur des revendications. L'association interjurassienne Grève des Femmes appelle au rassemblement dès 17h à la place de la gare à Delémont. Un hommage national sera rendu à 18h aux victimes de violences sexistes et sexuelles avant un départ du cortège à 18h10. Nous y reviendrons évidemment dans notre édition du soir. Et notez par ailleurs que la Suisse bénéficie d'un nouvel outil pour vérifier l'égalité salariale. La Confédération a mis aujourd'hui une plateforme en ligne à disposition des petites entreprises entreprises et organisations. Elle veut donner aux employeurs la base nécessaire pour concrétiser le principe à travail de valeur égale, salaire égal, inscrit dans la Constitution. Les différentes parties s'organisent après le vote de Moutier favorable au transfert dans le canton du Jura. La municipalité prévotoise cherche justement un chef de projet pour assurer cette transition. Les cantons du Jura et de Berne auront aussi leur propre négociateur pour discuter de ces conditions de transfert. La question du partage des biens sera par exemple essentiellement du ressort des cantons. Où se placera donc le responsable prévotois entre ces deux parties? Il aura de nombreux dossiers plus internes à la ville de Moutier à gérer, selon le conseiller municipal prévotois. Toi, Valentin Zuber.
Au niveau de Moutier, il y a toute, finalement, l'adaptation de la réalité prévotoise au futur environnement institutionnel, des adaptations légales, mais aussi, bien sûr, des adaptations au niveau du fonctionnement de l'administration. Il y a des choses que la ville de Moutier ne fera plus. Il y a de nouvelles tâches qui incomberont à l'administration prévotoise, au service des citoyens. Toute cette adaptation à ce futur environnement, eh bien, c'est un gros volume de travail qu'il faut mettre en œuvre et ce sera une des tâches principales du chargé de projet.
Ça veut dire qu'il ne sera pas un négociateur sur le partage des biens?
Moi, je crois que la question du partage des biens, c'est quelque chose qui va arriver dans un second temps. Moutier sera un répondant important parce qu'il faudra quelque part négocier le divorce d'avec Berne, mais aussi le mariage d'avec le canton du Jura. Et là, il faut un référent, un ou une référente au niveau de la ville de Moutier. Et puis, bien sûr, il y a tout un tas de choses aussi qui n'émargent pas forcément au domaine public, mais au domaine parapublic ou même privé, où Moutier devra s'adapter à son nouvel environnement. Et là, il faut une personne qui s'occupe de coordonner et de mettre en place tous ces travaux.
Des propos recueillis par Jérémy Pignard. L'entrée en fonction est prévue pour la rentrée de septembre. Le poste est sous contrat à durée déterminée de 4 ans, éventuellement renouvelable en fonction du calendrier. Le canton du Jura a mis sur pied un guide pour l'aménagement des aires de stationnement. Il l'a annoncé ce matin. Tout projet de parking devra désormais prévoir la plantation d'un arbre pour 5 cases. À partir d'une certaine dimension, une partie de l'aire de stationnement devra être aménagée avec des matériaux perméables comme des pavés en gazonné. Ces dispositions doivent permettre en particulier de lutter contre les îlots de chaleur. Elles font suite à l'entrée en vigueur de nouvelles règles au début de l'année. Deux accidents d'avion ont coûté la vie à 5 personnes samedi dans les Grisons. Un planeur avec un seul pilote à bord s'est écrasé, ainsi qu'un avion de tourisme qui était parti de Neuchâtel et qui transportait 4 personnes. Les deux appareils ont été retrouvés dans le même secteur à plus de 2500 mètres d'altitude. Le service d'enquête de sécurité doit désormais déterminer si les deux accidents sont liés. C'est une nouvelle page de l'histoire d'Israël qui s'est ouverte hier. Benjamin Netanyahou a été éjecté de son poste de Premier ministre après un règne ininterrompu de 12 ans. Le Parlement a soutenu une nouvelle coalition menée par l'ancien allié du désormais ex-Premier ministre Naftali Bennett. Et ça s'est joué à un souffle, Olivier Zano.
Sur les 119 membres que compte le Parlement, 60 ont voté pour la nouvelle coalition, 59 ont soutenu Benjamin Netanyahou. Une voix, un détail qui change tout, car c'est bien Naftali Bennett, chef de la droite radicale, qui est le nouveau Premier ministre israélien. L'homme a bénéficié de cette large entente qui va de la droite à la gauche, avec en prime, et c'est historique, l'appui d'un parti arabe. Benjamin Netanyahou était pourtant soutenu par son parti, le Likoud, aussi par l'extrême droite et les partis ultra-orthodoxes. Cela n'aura pas suffi. Visage fermé, l'ex-premier ministre a serré la main de son successeur avant de quitter le Parlement. Naftali Bennett a lui tenu un premier discours difficile devant la Knesset, hué par l'opposition. Ce n'est pas un jour de deuil, c'est un jour de changement de régime dans une démocratie, a-t-il déclaré. La tâche s'annonce toutefois compliquée, le pays est divisé. Naftali Bennett sera d'ailleurs confronté à des défis importants, demain déjà, avec la marche prévue par l'extrême droite à Jérusalem-Est, dans le secteur palestinien occupé par Israël. Les islamistes du Hamas ont déjà promis des représailles si cette marche contestée devait être maintenue.
Battu mais pas abattu, Benjamin Netanyahou a lui averti qu'il taclerait le nouveau gouvernement dans l'espoir de revenir au pouvoir. Ceci malgré ses 71 ans et son procès pour corruption, malversation et abus de pouvoir dans une série d'affaires.
Vous écoutez RFJ, il est 12h25.
Sport. Harri Pessonen fait son retour à Langnau. Le Finlandais a signé pour 2 ans avec le club bernois de National League de hockey sur glace. Annonce faite aujourd'hui, l'attaquant de 32 ans avait quitté l'Emmental il y a une année pour jouer en KHL. Novak Djokovic reste sans surprise en tête du classement ATP. Côté suisse, Roger Federer est toujours 8e ce lundi. Stan Wawrinka recule lui de la 24e à la 28e place. Chez les dames, l'Australienne Ashleigh Barty continue de mener le classement WTA. Dans le camp suisse, Belinda Milorada Bencic perd un rang et se retrouve 12e.
Le journal de l'euro, sur le terrain de la mobilité responsable avec la nouvelle Volkswagen ID.4 100% électrique à découvrir au garage Maurice Montavon à Develier.
Volkswagen. Un grand d'Europe fait son entrée en lice ce soir à l'Euro de football. L'Espagne, qui est la seule nation avec l'Allemagne à avoir remporté 3 fois le trophée, affronte la Suède. Coup d'envoi à 21h à Séville. Les deux sélections ont vu leur préparation perturbée par des cas de Covid au sein de leur effectif. Elles n'entament donc pas leur tournoi dans des conditions idéales. Jean-Paul Pichy.
Le Covid comme point commun de ce duel, l'Espagne commence cet Euro en manque de repères. Son capitaine Sergio Busquets a été testé positif au coronavirus dès le début de la préparation. Il est en isolement. Sa participation à la suite du tournoi est incertaine. Pour éviter la multiplication de cas, la sélection ibérique a pris des mesures drastiques en obligeant ses joueurs à s'entraîner en solitaire jusqu'à vendredi dernier. Elle n'a d'ailleurs pas pu jouer son dernier match amical contre la Lituanie la semaine passée. La Suède n'est pas mieux lotie. La sélection scandinave a perdu 2 joueurs en cours de route frappés par le virus. Le talentueux attaquant de la Juventus, Dejan Kulusevski, et le milieu de Bologne, Mathias Vanberg. Reste que les entraîneurs des deux formations se sont voulus rassurants et optimistes. L'Espagne et la Suède sont prêtes à en découdre.
Mais avant ce duel, l'Écosse sera aux prises avec la République tchèque cet après-midi à 15h. Cette rencontre sera suivie à 18h par la Pologne qui fera face à la Slovaquie. Christian Eriksen va rester en observation à l'hôpital, encore au moins aujourd'hui, peut-être aussi demain. C'est son agent qui l'indique aujourd'hui au quotidien sportif italien La Gazzetta del Sport. Le milieu du Danemark a été victime d'un arrêt cardiaque en plein match contre la Finlande samedi. Il se trouve dans des conditions stables et bonnes. Les médecins poursuivent leurs examens approfondis pour comprendre les raisons de son malaise. Christian Eriksen s'est par ailleurs dit touché par les très nombreux messages de soutien reçus du monde entier. Des joueurs danois ont par ailleurs critiqué aujourd'hui l'UEFA sur la reprise du match samedi. Le gardien de la sélection danoise Kasper Schmeichel et l'attaquant Martin Braithwaite ont déploré d'avoir eu à choisir si le match Danemark-Finlande devait reprendre alors qu'ils étaient encore sous le choc du malaise dramatique de leurs coéquipiers. Nous avons été mis dans une position où, à titre personnel, je pense que nous n'aurions pas dû être placés, a souligné Kasper Schmeichel lors d'une conférence de presse. Et ne manquez pas notre émission, le Café de l'Euro, à partir de 13h. Nous reviendrons notamment avec notre expert Cyril Maillard sur l'entrée en lice de la Suisse dans cet Euro. Bel après-midi.
Le journal de l'Euro, sur le terrain de la mobilité responsable avec la nouvelle Volkswagen ID.4 100% électrique à découvrir au garage Maurice Montavon à Develier. Volkswagen.
Une très belle journée ensoleillée estivale avec quelques cumulus sur les reliefs cet après-midi, le tout sans averse, voilà ce que prévoit Météo News pour la suite. Ce beau temps fait grimper le mercure jusqu'à 24 degrés en Franche-Montagne et 28 en plaine. Et demain, c'est la poursuite de ces conditions ensoleillées qui est annoncée avec toujours le développement de cumulus au-dessus des reliefs l'après-midi avec un risque orageux modéré jusqu'en début de soirée. Il fera demain, au meilleur de la journée, entre 25 et 30 degrés sur notre région.